Bonjour à chacun, bonjour à chacune, soyez les bienvenus. Je vous accueille ce matin au nom de l'équipe qui s'engage, s'active à préparer ce culte et surtout au nom de celui qu'on célèbre aujourd'hui pendant ces différents jours, celui qui est Dieu à l'origine de toute la création. Et c'est vertigineux quand on imagine ne serait-ce qu'un petit bout de sa dimension spatiale, sa dimension temporelle. Et moi, je suis toujours frappé, impressionné. Et régulièrement, je me dis, mais non, c'est pas possible. Dieu, l'univers, moi, l'Église, ça n'a pas de sens, c'est pas possible. C'est trop gros pour être vrai, pour être possible. Ben justement, ouais, c'est pas possible. C'est au-delà de ça. Et pourtant, il y a toujours un petit quelque chose qui me rattache aux réalités de la Bible, aux réalités de la parole de Dieu. Une présence, une parole, un signe qui me rappelle que non, je ne comprends pas tout. Et que oui, c'est impossible pour moi. C'est impossible pour nous, mais que Dieu est là. Et encore plus fou, ben Pâques, par exemple, et puis Noël, comme ce Dieu se révèle et vient nous rejoindre pour nous sauver. Un petit bébé, une naissance. Et puis, attention, c'est pas n'importe quelle naissance. Mais ce n'est pas une naissance extraordinaire, comme on pourrait l'imaginer dans une grande famille. En tout cas, rien d'extraordinaire à ce niveau. Et puis, ce n'est même pas une naissance ordinaire. Ils sont en déplacement, il n'y a pas de confort, il n'y a pas la sécurité de la famille, de ceux qui ont de l'expérience. On pourrait presque dire une vulgaire naissance. Dieu parmi les hommes, Emmanuel. Alors oui, on y est. Pour certains, ben c'est les vacances. Il y a Noël, il y a les fêtes, même s'il restera toujours des cadeaux de dernière minute. Il y a la neige qui arrive. Alors pour ici, c'est pas gagné. Mais en montagne, ça fait un peu envie. On y est. Ben moi, c'est la période avec la traditionnelle crève qui m'a pas mal embêté ces derniers jours, et puis c'est un peu de saison aussi. Mais nous y sommes, dernier dimanche de l'Avent. Et après la fête de Noël avec les enfants la semaine passée, nous vous proposons un culte de Noël un peu plus traditionnel, en tout cas au niveau des chants, pour ceux qui réclamaient. Et encore une fois, avec des histoires de naissance. Alors je vous invite à prier. Seigneur, nous y sommes à Noël. Pas toujours facile cette période, pour plein de raisons. Il y a de la joie, de la lumière partout, des cadeaux, de la fête. Il y a aussi des guerres, au loin, mais aussi pas si loin. Il y en a peut-être dans nos vies, parfois dans nos familles. Alors toi le Seigneur, toi le Dieu qui vient te révéler, qui vient vivre parmi nous, qui vient nous rejoindre chacun personnellement, que tu viennes en chacun de nous ce matin, ces jours, que tu sois notre lumière, notre joie et notre paix. Accompagne-nous particulièrement au travers de ce culte que nous voulons vivre ensemble avec toi. Amen. Alors pour les enfants, ils ont une activité spéciale. Alors, je ne sais pas si ça doit pas être, ça doit être en bas, j'imagine. Ouais. Avec la projection d'un film, ils en auront pour un peu plus d'une heure. Et nous, nous voulons poursuivre ce culte avec un premier chant. Et je vous invite à vous lever pour ce temps de chant et de lecture. Annoncé par les prophètes. Et puis je lis un des textes qui parle de lui. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitent le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors d'un partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerrier qui martèlent le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Un enfant nous est né. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour.
Écoutez le chant des anges. Viens d'éclater dans les airs, joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Oh, son berceau, et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à tout débonner et de grâce couronner. Jésus sauvé notre frère, un sauveur nous est donné. Bonheur et de grâce couronner. Jésus se fait notre frère, un sauveur nous est donné. Au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre est avec nous prosterné. Jésus se fait notre frère, un sauveur. Son peuple sur la terre est avec nous prosterné. Jésus se fait notre frère, un sauveur nous est donné.
Vous pouvez reprendre place. On va continuer avec deux lectures. Deux lectures, deux naissances. À des époques différentes. Et on commence avec un premier texte dans Exode 2, les versets 1 et 10. Un homme de la tribu de Lévi épousa une femme de la même tribu. La femme devint enceinte et mit au monde un garçon. Elle vit que l'enfant était beau et le cacha durant 3 mois. Ensuite, ne pouvant plus le tenir caché, elle prit une corbeille en tige de papyrus, la rendit imperméable avec du goudron et de l'enduit, y déposa l'enfant et alla placer la corbeille parmi les roseaux au bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour voir ce qui lui arriverait. Or, la fille du Pharaon descendit au Nil pour s'y baigner. Tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve, elle aperçut la corbeille au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Puis elle l'ouvrit et vit un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et s'écria « C'est un enfant des Hébreux !» La sœur de l'enfant demanda à la fille du Pharaon « Veux-tu que j'aille chercher une nourrice chez les Hébreux pour qu'elle allaite l'enfant pour toi ?»« Oui, » lui répondit la fille du Pharaon. La fillette alla chercher la propre mère de l'enfant. La fille du Pharaon dit à la femme, « Emmène cet enfant et allaite-le pour moi, et je te paierai pour cela. » La mère prit l'enfant et l'allaita. Lorsque l'enfant fut assez grand, la mère l'amena à la fille de Pharaon. Celle-ci l'adopta et déclara, « Puisque je l'ai tiré de l'eau, je lui donne le nom de Moïse. »
Merci. Je vais vous lire l'annonce à Joseph de la naissance de Jésus dans Matthieu 1, verset 18, au chapitre 2, verset 23. « Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu est avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné, et il prit sa femme Marie chez lui. Mais il n'eut pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, que Joseph appela Jésus.
Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez, cherchez des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays.
Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode recherchera l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. »
Quand Hérode se rendit compte que les savants s'étaient moqués de lui, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de 2 ans et moins, selon les indications de temps données par les savants. Ainsi s'accomplit ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une voix à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée car ils sont morts.
Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte. Il lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère et retourna au pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaos était devenu roi de la Judée à la suite d'Hérode et il eut peur de s'y rendre. Il fut averti dans un rêve et il partit pour la région de la Galilée. Il habita dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse cette parole des prophètes, il sera appelé Nazaréen.
Je vais encore prier. Merci Seigneur pour ta parole, pour ta révélation qui s'inscrit dans l'histoire et qui s'inscrit dans notre histoire. Que tu conduises Philippe dans ce qu'il nous partage, que tu nous ouvres à ta parole, à ton action dans nos vies. Amen.
Bonjour à chacun, à chacune. Si la fête chrétienne que nous célébrons ces jours-ci s'appelle Noël, c'est parce qu'il est question de la naissance de Jésus, de sa natalis en latin, le mot qui a donné Noël. Noël, c'est une naissance. Noël, c'est la naissance de Jésus. La naissance du Christ, c'est l'événement central de l'histoire de l'humanité. C'est précisément ce qui constitue le sujet de toute l'histoire. Annoncé, préparé, né, et depuis, nous vivons des conséquences de cette naissance. En appelant cette fête naissance, le christianisme ne s'est pas trompé sur le sens de ce qu'il y a à fêter. Noël ne consiste pas à célébrer le petit enfant Jésus, mais à célébrer une venue au monde. Quelque chose de neuf, de radicalement nouveau, qui est arrivé dans le monde pour le sauver de sa misère. Et pourtant, pour être honnête avec vous, il ne m'est pas aisé, cette année encore, de fêter Noël. Fêter Noël comme je l'ai fait enfant, adolescent, jeune adulte, jeune marié, avec un peu de légèreté, un brin d'insouciance, si ce n'est une certaine excitation à l'idée de décorer la maison, décorer le sapin, emballer les cadeaux, préparer le menu, les biscuits. Moi, je n'arrive pas à m'ôter de la tête ces images, ces informations, ces situations qui me rappellent un monde déchiré par la violence, par les abus, par l'injustice. Je n'arrive pas à m'ôter ça de la tête. La situation au Proche et au Moyen-Orient me touche plus que je ne peux le dire. Sur ces terres que Moïse, le Christ, puis les premiers chrétiens ont parcouru, sur ces terres où l'Église est née, aujourd'hui, ce matin, des populations sont massacrées. Je ne peux pas me l'ôter de la tête. Et je me suis posé la question, comment faire résonner tout ça avec un Noël bien occidental, lissé, un Noël paré de son plus beau décorum, des magasins ouverts, même le dimanche, la course à la consommation et les soldes qui bientôt arrivent déjà. Est-il encore possible de faire résonner cette parole des anges aux bergers? Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix, paix, paix sur la terre pour celles et ceux qui l'aiment. Comment faire résonner tout ça? Évidemment, en lisant le récit de la naissance de Moïse, puis le récit de la naissance de Jésus, on pourrait être frappé qu'il n'y ait rien de vraiment nouveau sous le soleil, puisque nous avons deux enfants qui naissent. Ces deux enfants, Moïse et Jésus, naissent dans une famille de la tribu de Lévi. Deux enfants qui sont menacés de mort à leur naissance. Deux enfants qu'il va falloir soustraire de la mort. Deux enfants qui pourtant vont dépasser ces circonstances et ouvrir pour nous, je crois, un nouvel horizon. Ni Jésus ni Moïse ne semblent les bienvenus dans ce monde. Et il est manifeste qu'ils n'ont pas vraiment leur place au sein de l'humanité. De plus, ce sont deux enfants qui ne vont pas porter le nom qu'ils auraient dû porter, puisque c'est la fille de Pharaon qui va nommer Moïse, et que Jésus, contre toute attente, ne s'appellera finalement pas Emmanuel, comme cela pourtant était prévu au départ chez les prophètes qui anticipaient sa venue. Ésaïe 7, verset 14, Jésus aurait dû s'appeler Emmanuel. Du coup, on a deux enfants avec quelques points communs et nous comprenons, je crois, que les récits de Noël ne nous invitent pas seulement à tourner notre regard vers ce qui s'est passé il y a un peu plus de 2000 ans, mais à regarder aussi notre propre vécu dans le monde aujourd'hui et essayer de le faire à la lumière de ces récits bibliques de naissance, toujours pertinents pour notre temps. C'est ainsi que nous pourrons découvrir de quelle manière Dieu s'incarne dans l'histoire, de quelle manière Dieu nous propose, nous donne, nous offre des ressources pour vivre l'histoire. Et nous allons voir de quelle manière ces naissances nous enseignent finalement ce qu'est être humain. Toujours utile d'avoir un frère bienveillant. Deux récits de naissance qui nous enseignent ce qu'est être humain. Le premier point que je relève ce matin, c'est qu'il y a une vulnérabilité assumée et dépassée chez ces deux enfants. Le regard des rédacteurs bibliques ne se porte pas tant sur l'enfance que sur le moment crucial de la naissance tant de Moïse que de Jésus. Parce que ni pour Moïse ni pour Jésus, nous ne savons ce qui s'est passé durant leur enfance. Nous ne saurons pas s'ils ont bien travaillé à l'école, s'ils y étaient sages, assidus. Il y a plutôt lieu de penser qu'ils n'ont pas vraiment usé leur fond de culotte sur les bancs d'une classe. Mais enfin, nous ne savons rien, absolument rien, de leur enfance. En revanche, nous savons qu'au moment de leur naissance, cela aurait pu très mal se finir très rapidement. Et voilà ce qui intéresse les rédacteurs bibliques. Que ce soit le rédacteur biblique du livre de l'Exode ou que ce soit les rédacteurs bibliques des récits de la nativité de Jésus. Ce qui les intéresse, les rédacteurs, ce sont les premiers instants qui sont des instants cruciaux. Nous savons que la naissance est le moment où l'être humain est le plus vulnérable. Il est à la merci du moindre problème. Ici, c'est la menace d'un souverain tyrannique. Mais d'une manière plus générale, un nouveau-né est tout sauf autonome. Le nouveau-né dit bien ce qu'est être humain. Un nouveau-né nous dit la condition humaine qui est faite d'une totale fragilité. Et qui a tenu un bébé pour la première fois de sa vie entre ses mains a eu peur de le casser. Une totale vulnérabilité. Et une immense dépendance. Parce que sans le moindre soin de la part des adultes, un nouveau-né n'a aucune chance de s'en sortir tout seul. Autrement dit, le nouveau-né qui intéresse le rédacteur biblique, le nouveau-né incarne la vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, c'est un trait caractéristique de l'être humain, de l'humanité. Être humain, c'est être vulnérable. Quelqu'un qui n'est pas vulnérable n'est pas pleinement humain. C'est d'ailleurs tout le problème des tyrans qui refusent la moindre vulnérabilité. Ils ne sont plus humains. La vulnérabilité, c'est le fait que l'échec soit constitutif de la vie. Il nous arrive de nous tromper, de commettre des fautes ou d'en être victime, mais la vulnérabilité fait partie de la vie. La vulnérabilité, c'est une donnée de notre vie que Dieu connaît bien et qu'il assume. Dieu assume cette vulnérabilité en se rendant pleinement présent dans le nouveau-né de Bethléem. Cet enfant qui est là, qui pousse ses premiers cris, ses premiers pleurs, qui peine à trouver son pouce ou le sein de sa mère. Ce nouveau-né, c'est Dieu en personne qui assume la vulnérabilité. Avec l'épisode de Moïse, nous voyons que la vulnérabilité est bien comprise d'ailleurs par la mère de Moïse. Vous avez peut-être remarqué en écoutant le récit que la mère de Moïse va le cacher dans un coffre dont le nom hébreu, Théba, est le même qui est utilisé pour parler de l'arche de Noé. Une Théba, c'est une arche de protection. Et Moïse, qui à ce moment-là ne s'appelle pas encore Moïse, est placé dans cette Théba pour essayer de le sauver de la catastrophe à venir. Et là, il est placé dans une Théba, une arche, au milieu des joncs, comme il sera plus tard au milieu de la mer des joncs, pour sauver le peuple hébreu. Et le mot hébreu que nous avons ici pour parler des joncs, le mot souf, signifie aussi bien en hébreu les joncs que la fin, F-I-N. C'est le même mot. Moïse, dans sa vulnérabilité, il nous enseigne que lorsqu'on est situé apparemment à la toute fin, il n'est vraiment pas sûr que ce soit vraiment la fin. Cela peut encore déboucher sur un avenir. Comme Jésus, dans ses derniers mots sur la croix, « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Et nous savons d'ici ce que Dieu en fera en redonnant le souffle à son Fils. Moïse et Jésus disent et prouvent qu'il y a un après les situations les plus extrêmes, qu'il y a un avenir qui est possible, que des choses neuves peuvent être faites, même si on a eu l'impression d'être à la fin. Ainsi, Moïse sauvé de la mort, Moïse sauvé des eaux, comme Jésus qui sera sauvé de la folie d'Hérode, puis de la croix, nous indique que la vulnérabilité est un élément fondamental de la condition humaine et que la vulnérabilité n'est pas un obstacle à l'avenir. Nous, ce matin, on peut se sentir fragile, on peut se sentir menacé, on peut même se sentir harcelé, on peut se sentir archi nul aujourd'hui, dépassé, sans ressources, Moïse et Jésus nous montrent qu'un avenir pleinement satisfaisant reste possible, que rien n'est fermé, que tout est ouvert, parce que rien, non rien, n'est impossible à Dieu. Et ça, c'est une donnée qu'on doit chérir dans nos vies. Rien, non rien, n'est impossible à Dieu. Moïse et Jésus, tout vulnérables qu'ils sont, vont ensuite être sauvés l'un et l'autre de l'Égypte. C'est un autre point commun. Or, on ne peut pas dire que l'Égypte est bonne presse dans la Bible. Du moins, est-il souvent fait référence à l'Égypte comme le lieu de l'esclavage, dont Moïse permettra la libération, justement. Mais une autre image s'est superposée à celle-là. C'est que pour Moïse et pour Jésus, l'Égypte est devenue le lieu de leur salut. C'est vrai pour Jésus. Il va en Égypte. Ça lui sauve la vie. Ce fut vrai également pour le futur roi Jéroboam, qui échappa à la colère de Salomon, qui voulait lui faire la peau en allant se réfugier en Égypte. Ce fut vrai aussi dans le livre de la Genèse pour des personnes qui trouvèrent leur salut en Égypte. Que ce soit Joseph, qui allait être tué par ses frères, ou que ce soit ses frères, plus tard, qui risquaient de mourir de faim et qui trouvèrent en Égypte de quoi être sauvés de la famine. L'Égypte, qui n'a pas bonne presse, l'Égypte qui est facilement réduite à l'état d'ennemi, l'Égypte peut être un lieu de salut. Cela indique que l'avenir passe par un nouveau regard sur les autres, et tout spécialement sur les autres qu'on pourrait qualifier d'ennemis, et que le regard qu'on porte sur eux ne peut pas jamais être définitif. L'Égypte, figure de l'ennemi par définition, devient pour Moïse et pour Jésus le lieu du refuge et du salut. Il y a un renversement. Et je crois qu'il y a là une indication pour nous qu'il ne faut pas enfermer qui que ce soit dans une image définitive. Parce que faire une image définitive, c'est en faire une eidolon en grec, une idole. Et ça, c'est péché. Enfermer quelqu'un dans une identité définitive, c'est péché. C'est de l'idolâtrie. Un nouveau regard, donc, sur l'ennemi. Si nous pensons, nous, à l'histoire récente de la France voisine, pensons à ce que serait la vie des Français si les Français avaient maintenu les Allemands sous les traits de l'ennemi, alors qu'ils leur doivent d'avoir pu finalement adosser leur économie à la leur pendant des années et se relever. Et cela doit nous encourager à penser à l'avenir, aujourd'hui, en transcendant les conflits du moment. Ces conflits qu'on voit, qu'on lit, qu'on devine, on peut être appelé à les transcender. Il y a là, Dieu voulant, un avenir possible entre ceux qui, aujourd'hui, sont des belligérants. De même que la famille de Pharaon, hostile aux Hébreux, prendra soin de Moïse, le libérateur, de même que l'Égypte sera une terre de salut, pensons l'avenir, qui pourrait consister à faire passer des conflits actuels à de nouvelles coopérations respectueuses. Pour cela, il faut transcender les identités respectives. il faut nous reconnaître plus grands que nos identités particulières. Il faut refuser de dépeindre l'autre que sous des pires traits définitifs. Et je crois que c'est valable aussi pour les chapelles religieuses. De même que les évangéliques font des pas pour se reconnaître, pour s'estimer malgré toutes leurs différences, de même que les protestants ont considéré qu'il y a plus grand que le protestantisme, eh oui, ce qui a permis l'œcuménisme, de même, il y a plus grand que nos identités respectives, il y a plus grand que la Suisse, il y a plus grand que n'importe quelle nation, parce que notre Dieu est sans frontières, universel, bien plus large que nous le pensons. Les récits de naissance de Moïse et de Jésus montrent bien que nous avons en commun, qui que nous soyons, cette vulnérabilité qui caractérise la condition humaine. Ces récits montrent qu'il y a de l'universel dans notre humanité et que cette dimension universelle devrait orienter notre avenir vers les coopérations plutôt que vers les conflits, devrait nous orienter à construire des ponts plutôt que des murs. On voit aussi que l'enfant hébreu d'Exode 2 va recevoir un nom égyptien. Et quel nom ? Puisque Moïse signifie « né ». Comme Toutmosis, le pharaon, qui signifie « né » de la divinité Thoth. Toutmosis. Moïse signifie juste « né ». Moïse, c'est celui qui est né de... Né de père inconnu, né de mère non nommée dans le texte, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'humanité. C'est un Fils qui n'appartient à personne. Comme Jésus, qui aura pleinement conscience très vite qu'il y a bien plus grand que ses propres parents biologiques, qui les enverra bouler. Ne pas être prisonnier d'une identité trop étriquée, c'est être libre de pouvoir nous engager dans l'avenir sur des adhésions plus larges que toutes nos étroitesses de vue. C'est s'émanciper, c'est adopter la liberté, la glorieuse liberté des enfants de Dieu, dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates. Ainsi, Jésus va transcender les barrières religieuses, les barrières morales, les barrières politiques, pour replacer chacun, chacune, face à la dimension universelle de l'existence et découvrir dans celui ou dans celle qui vient vers nous la figure d'un prochain qui doit être aimé, accueilli, respecté. Jamais rejeté, jamais humilié, jamais caricaturé. Denise.
Je peux te demander ce que ça veut dire, transcender.
Ouais. Transcender, c'est profondément changer. C'est prendre une donnée existante et la modifier radicalement. Et dans notre compréhension chrétienne, la transcendance, elle implique Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut changer la donne. Une dernière remarque sur les deux textes que nous avons lus ce matin avant de conclure. Une dernière remarque. Il est précisé que la mère de Moïse est de la tribu de Lévi. Et nous le comprenons aussi pour Jésus, dont la mère a pour cousine Élisabeth, Élisabeth qui est la femme d'un prêtre, d'un lévite qui s'appelle Zacharie. Nos deux enfants sont issus de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est celle au sein de laquelle on va trouver les prêtres, et notamment les grands prêtres. La tribu de Lévi, c'est la tribu de ceux qui ont pour vocation de rendre possible la proximité avec Dieu. C'est ça que font les prêtres. Ils rendent possible la proximité avec Dieu. Ce sont ceux qui ont pour fonction de replacer chaque vie et tout le peuple en face de ce qui est sacré, de la transcendance. Luther dira dans son commentaire, ce sont des masques de Dieu. Alors autour de ces deux naissances, si les gens veulent une expérience du sacré, ils la trouveront. Si les gens veulent une expérience du profane, ils la trouveront aussi. Le sacré, et nous l'oublions parfois, quand nous sommes obsédés par les questions de pouvoir, de puissance, de possession, quand nous sommes menacés par la faim, le froid, le risque de basculer dans la misère, dans la solitude, le sacré, nous l'oublions parfois, quand notre vie est menacée ou installée, nous l'oublions le sacré, quand notre vie n'est plus que l'ombre d'elle-même ou un accomplissement que nous ne devons qu'à nous-mêmes. Mais lorsque nous venons au culte, ce n'est même pas pour éprouver la présence du sacré. Alors que le sacré est bien au cœur de la question religieuse. Être religieux, c'est s'approcher du sacré. La place du sacré. La place de la transcendance. C'est ça aussi l'histoire de ces deux naissances. Moïse, pour le peuple hébreu, puis Jésus, pour toute personne dont il croisera la route, ont eu cette fonction-là, rendre Dieu présent dans la vie des gens, pour porter leur vie à l'incandescence. À l'image du buisson ardent qui brûle, qui ne se consume pas et qui révèle à chacun quel est le sens profond de la vie. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie ? Jésus, qui comme nul autre, saura rendre Dieu présent, pertinent, décisif dans la vie des gens. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Ça, c'est le sacré. Et le transcendant. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un Fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. Ça, c'est la transcendance, le sacré, le glorieux. Le Père lui-même vous aime. Il vous aime parce que vous m'aimez, dit Jésus, et pour ce que vous avez cru que je suis venu de Dieu. Ça, c'est le sacré, la transcendance. Nous sommes aimés parce que nous croyons en Jésus. Moïse, puis Jésus, incarneront cette fonction divine qui consiste à appeler chacun à se poser la question du sens de la vie et à découvrir que la vie ne se résume pas à accumuler des journées, à survivre un jour de plus, à faire sagement ce que les parents, les maîtres, les pasteurs, les habitudes ou la mode du moment dictent de faire. Le sacré, c'est ce qui a pour nous une valeur d'ultime. C'est ce qui est inconditionnel. C'est ce avec quoi on ne va pas badiner. Ce qui, d'une certaine manière, nous motive, nous contraint, c'est ce qu'on défendra jusqu'à l'épuisement des forces. Parce que sans le sacré, la vie n'est plus la vie. Noël, c'est donc la venue au monde de la possibilité que notre vie ait du sens, qu'elle soit réalignée, réconciliée, rachetée, qu'elle soit empreinte de la liberté que Dieu nous donne pour qu'on puisse s'investir dans cette vie avec cœur. En conclusion, si nous allons au bout de la vie de Jésus, si nous écoutons les dernières paroles qu'il adresse à ses disciples et qui révèlent le sens de tout ça, Noël, c'est l'arrivée d'une vie par laquelle chacun, chacune peut éprouver une joie complète. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ça, c'est le sacré. Dieu qui nous donne la possibilité d'avoir une joie parfaite. Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Parce qu'il transforme l'existant pour le meilleur, parce qu'il renverse les résistances, parce qu'il nous fait porter un nouveau regard sur nos ennemis, parce qu'il fait irruption dans nos vies pour les porter à l'incandescence et leur donner du sens. À cause de tout ça, avec tout ça, grâce à tout ça, je vous souhaite un joyeux Noël avec de l'épaisseur, avec du fond, avec du sacré. Un joyeux Noël. Amen.
Dieu est intervenu. Son action qui s'inscrit dans toute cette histoire, cette naissance, ce Jésus qui a vécu parmi les hommes, comme annoncé de différentes manières, il est mort. Il est mort sur une croix. Une mort tragique, pas vraiment comprise par ses disciples. C'était la fin. Et pourtant, non, justement, ce n'était pas la fin. Car rien n'est impossible à Dieu. Je lis juste un bout d'un psaume, le psaume 22. On me traite comme une vermine. Je ne suis plus un homme. Les gens m'insultent. Tout le monde me méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils font la moue. Ils secouent la tête. Ils disent de moi... Il a remis son sort au Seigneur, eh bien, que le Seigneur le tire d'affaire. Une bande de malfaiteurs m'encercle. Ces chiens ne me laissent aucune issue. Ils m'ont lié les pieds et les mains. Dans certaines versions, c'est « ils m'ont percé les pieds et les mains ». Je suis tellement amaigri, je peux compter tous mes os. Mes adversaires me regardent fixement. Ils se partagent mes habits. Ils tirent au sort mes vêtements. Et c'est lui qui a payé ce prix pour nous racheter. C'est lui qui nous sauve aujourd'hui encore. Alors je vous invite à le chanter avant de prendre ce pain et ce vin tout à l'heure.
Vous êtes à vous lever.
Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié. ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans ta gloire, je verrai sa face, je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit.
Vous pouvez reprendre place. Je vais lire l'institution dans Matthieu. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. » Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Cher Seigneur, nous plions le genou devant toi. T'adorons. De la crèche à la croix, tu es notre sauveur, notre frère. Nous mesurons le privilège immense d'être aimés de Dieu, de voir notre salut acquis, non par nos œuvres, mais en vertu de ce que tu as fait. Merci d'avoir déposé ta vie. Merci de t'être authentifié en ressuscitant. Merci pour l'Église que tu bâtis, pour la perspective de ton prochain retour et de ce repas grandiose que nous fêterons avec toi et celles et ceux qui nous ont précédés à tes côtés. Nous nous réjouissons de ce jour. Nous l'appelons de nos vœux, de nos prières. Et pour l'ici et le maintenant, Père, fais-nous cette grâce de nous nourrir de toi. Dans le nom de Jésus. Amen.
Nous allons distribuer les paniers avec le pain, les vins, le vin dans les coupelles. Sur les coupelles avec au centre du jus de raisin et le vin autour. Si vous voulez communier avec la coupe, faites signe à Philippe. Et si vous voulez vous prier à haute voix pendant ce temps, vous pouvez aussi.
Christ souhaitait pour tout son peuple, qu'il a réalisé pour nous, après avoir été résurrection, qu'il fait de nous un royaume de prêtres, et qu'il veut nous remplir de ton esprit pour que nous soyons, oui, des témoins de qui tu es, pour que nous puissions apporter le sacré, le refléter autour de nous. Merci pour cette glorieuse perspective.
Pour ton amour, pour ta grâce, pour ton salut, nous voulons te remercier, Seigneur, et que tu nous permettes de réaliser et de vivre ton amour, ton pardon dans nos vies, autour de nous, à le propager aussi, à en être témoin jour après jour. Et merci parce que tu nous promets qu'un jour on pourra vivre ce repas, vivre cette fête avec toi dans ton royaume. Amen. On va encore passer avec les sachets pour un temps d'offrande. Ce n'est pas une occasion spéciale de Noël. Alors si vous voulez, il y a plein d'occasions de s'investir financièrement, n'hésitez pas à demander. Mais c'est un temps d'offrande, c'est donné pour Dieu, pour son royaume. Il y a de l'ordre du don, du symbole, de la confiance que l'on veut témoigner. Et il y a cet aspect aussi terre à terre, très pratique pour nous, le fonctionnement de l'Église. Alors, sentez-vous libre d'y participer ou pas, maintenant ou en utilisant d'autres canaux. Thierry, je laisse passer les petits sachets, et pendant que les sachets circulent, je vous rappelle simplement quelques petites annonces. Alors c'est assez court. Rappelez, vous avez vu les petits papiers sur les chaises, ou une chaise sur deux si jamais. Ne vous battez pas, je suis sûr qu'on peut en trouver d'autres. Pour mardi soir, la célébration œcuménique, mardi 24 décembre à 23h au CEPOM. Ouverture des portes un petit peu plus tôt. Ensuite, pendant cette période de fête et un petit peu de vacances quand même pour l'équipe pastorale, le dimanche 29 décembre à 10h, un culte avec Philippe Cornu cette fois. Et puis le dimanche 5 janvier, culte de reprise, toujours à 10h. Et puis il y aura une petite surprise après le culte. Je crois qu'il y a aussi une petite surprise après le culte ici. Qu'on verra tout à l'heure. Enfin,
un vin chaud,
très bien, ouais. C'est bon pour la gorge. Et alors, pour terminer ce culte, je laisse la place pour la bénédiction, mais juste avant, je vais remettre l'offrande. Merci Seigneur de pouvoir participer à ton royaume. Aussi au niveau financier, merci parce qu'on veut reconnaître que c'est toi qui nous fais grâce de toutes choses. Aide-nous à te faire confiance pour les choses matérielles aussi, c'est pas toujours facile. Mais permets-nous de de te donner de tout notre cœur aussi, et permet que cet argent puisse servir ton royaume, servir ton église, servir les peuples et les gens ici et au loin. Amen.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction et un dernier beau chant tous ensemble. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais le don de la vérité est venu par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit dans l'intimité du Père, lui seul, le Fils unique, l'a fait connaître. Que vous puissiez connaître Dieu par l'intermédiaire de Jésus, son Fils, que nous fêtons à Noël.
Voici Noël, oh douce nuit, l'étoile qui nous conduit, allons dans tous avec les mains, porter à Jésus nos âmes.
Pardon.